La Lorraine, vue du parc,
biodiversité,
agriculture,
milieu naturel,
tourisme,
culture,
aménagement durable du territoire.
En partenariat avec le parc naturel régional de Lorraine.
Une autre vie s'invente ici.
Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de La Lorraine vue du parc. Je suis accompagnée aujourd'hui de Johan Klaus et Nelly Weber qui sont tous les deux chargés de mission Natura 2000, ainsi que de Nicolas Lambert qui est chargé de mission Programme de terrain et politique jeune. Bonjour Nicolas, bonjour Nelly.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà votre rôle au sein du parc ?
Alors moi, je suis chargé de mission éducation et plus particulièrement, je m'occupe de ce qu'on appelle les programmes de terrain et la politique jeune.
Et moi, je suis chargé de mission Nature 2000 sur la zone est du parc, savoir les environs de Dieu, Château-Salin.
Johan ?
Moi, je suis également chargé de mission Nature 2000 et je travaille en Meurthe-et-Moselle. Dans le secteur de Toul, Pont-à-Mousson, Pagny-sur-Moselle.
Nicolas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un chantier nature ?
Oui, alors les chantiers nature, on a essayé de définir ça justement récemment. On a essayé de se poser la question, nous en interne aussi, de savoir ce que c'était qu'un chantier nature. Un chantier, ça peut être effectivement, on prend les pelles, les pioches, les râteaux, tronçonneuses, débroussailleuses, et on va intervenir sur un milieu dit naturel. Mais un chantier, pour nous, ça peut également être des inventaires naturalistes, avec différents publics sur le territoire du parc.
Quand tu dis inventaire naturaliste, ça veut dire qu'on recense les espèces de faune, de flore, les animaux, etc., justement sur cette partie-là ?
Oui, en particulier sur les zones Natura 2000, où on travaille en lien avec Johan et Nelly. On peut exactement faire des inventaires naturalistes. Avifaune, par exemple, c'est les oiseaux. Donc on a déjà mené des inventaires sur le gobe-mouche à collier, qui est une espèce remarquable du territoire.
Un petit oiseau qui est noir et blanc, il me semble.
C'est ça, exactement.
Quand tu disais tout à l'heure Natura 2000, alors on en a parlé lors de la dernière émission de la Lorraine Vue du Parc, qui parlait de la fête du poisson qui avait lieu à la Chaussée avec Mathieu Gingère. Mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est qu'un site Natura 2000 ? C'est un site naturel classé, c'est ça, Johan ?
Alors en fait, Natura 2000, c'est une politique européenne et nationale de protection de la nature qui se met en place sur des sites qui ont une valeur naturelle très forte et sur des espèces et des milieux qui sont remarquables à l'échelle de l'Union européenne.
Et il y en a combien sur le parc de Lorraine ? 16, c'est ça ?
Donc il y a 16 sites Natura 2000 qui sont situés sur le territoire du parc, ce qui correspond à peu près à 14% du territoire.
Vous parlez des chantiers nature. Quel est le but de ces chantiers ? Pourquoi vous les lancez ? Comment vous les pensez, réfléchissez ? Quelle est la démarche en fait, que vous suivez quand vous voulez en créer ?
Alors, il n'y a pas forcément de démarche préétablie. On travaille selon plusieurs approches. Soit c'est la commune du territoire qui nous contacte parce qu'elle a un milieu naturel type pelouse calcaire ou mare ou autre, dont elle ne sait pas trop quoi faire et sur lequel elle souhaiterait qu'on intervienne. Soit c'est en fonction de publics avec lesquels on travaille depuis longtemps, comme les élèves qui sont en lycée agricole. Soit c'est des milieux qui ont été repérés par les techniciens naturalistes, donc ceux qui s'occupent de Natura 2000 ou qui s'occupent de l'Observatoire de la biodiversité, et sur lesquels on décide d'intervenir. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours en lien avec les élus du territoire.
D'accord, c'est pas un truc indépendant, le parc fait dans son coin, et voilà, c'est vraiment un travail de collaboration, de concertation.
Oui, c'est ça, l'objectif c'est aussi de mettre en valeur, je pense, pour les élus, des territoires qui ne sont pas forcément valorisés à l'heure actuelle, et pour que la population puisse prendre en charge et devenir acteur de ces espaces-là.
Et du coup, quand tu disais que c'était des territoires qui n'étaient pas forcément valorisés habituellement, c'est pour ça que les chantiers nature peuvent être dans des communes dont on n'entend jamais parler ?
Ça concerne toutes les communes du territoire. Donc effectivement, il y a des communes qui ont plus l'habitude ou qui sont sur des territoires déjà labellisés, qui sont sur des territoires inclus dans les périmètres Natura 2000. Il y a effectivement des communes qui ne sont pas inclus dans ces périmètres-là et qui ont du patrimoine naturel sur lequel on a vocation à intervenir dans le cadre des chantiers nature, ou alors sur ces communes-là, il y a des espèces qui s'expriment, comme par exemple la chouette chevêche, qui peuvent être intéressantes à inventorier.
Tout le monde peut être bénévole ?
Alors les chantiers nature, ils s'adressent dans un premier temps à des élèves de lycée agricole. Ça, c'est comme ça qu'on a construit l'action depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et ce qu'on souhaite faire dans les années à venir, c'est ouvrir cette politique-là aux jeunes du territoire en particulier, et également aux habitants, donc à leurs parents ou aux habitants en général du territoire.
Il faut avoir une sensibilité au début plutôt branchée écolo, ou bien simplement avoir envie de travailler pour sa commune, de l'embellir, ça suffit ?
Nous, on pense qu'il faut simplement être habitant du territoire pour participer au chantier nature, et que c'est notre travail d'amener la connaissance aux futurs bénévoles, mais qu'ils peuvent venir sans connaissance a priori, pour travailler avec nous, avec les élus du territoire, et sur leur territoire communal en particulier.
Johan, est-ce que tu pourrais nous parler d'une action, d'un chantier nature qui t'a marqué ou qui a lieu bientôt ?
Il y a une action qu'on a menée au printemps, donc au mois de mai 2013, qui était assez originale. C'est vrai que quand on parle de chantier nature, souvent on parle de débroussaillage, d'abattage d'arbres, de pelles et de pioches, etc. Et là, en fait, on a une autre facette des chantiers, qui est la connaissance et qui est la formation des étudiants à la découverte du patrimoine naturel que l'on a sur notre territoire. Et on a travaillé donc avec une classe de BTS en gestion et protection de la nature au recensement d'une espèce, d'un petit passereau qui vit en forêt, qui s'appelle le gomme-mouche à collier, qui est assez discret, hein, qui est un petit oiseau migrateur qui arrive chez nous au mois d'avril, et qui est assez emblématique de forêts, de chênes assez vieilles qui sont présentes sur notre territoire. Et pour inventorier ce petit oiseau, c'est vrai qu'on a souvent besoin d'être nombreux, parce qu'il faut sillonner les forêts de long en large. Et grâce au travail d'une classe de BTS en gestion et protection de la nature, on a pu inventorier plusieurs centaines d'hectares au sein d'une forêt publique.
Inventorier, c'est-à-dire ratisser tout l'espace que vous avez défini avant pour pouvoir définir où est cet oiseau, savoir où est-ce qu'il se situe sur le territoire et puis quel est son mode de vie, c'est ça ?
Voilà, donc il y avait plusieurs objectifs. Hein. C'était déjà évaluer la population de cet oiseau au sein d'un massif forestier et puis savoir dans quelle parcelle il était présent pour qu'ensuite, avec les gestionnaires forestiers, on puisse adapter une sylviculture qui puisse correspondre aux besoins de cette espèce-là.
Il y a un intérêt encore derrière l'évaluation. C'est pas juste prendre des chiffres, en fait.
Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que nous, on y voit plusieurs intérêts. Déjà, il y a un aspect de formation de ces publics jeunes qui ont souvent un bon bagage théorique, mais qui, au cours de leur cursus, n'ont pas forcément l'occasion d'avoir une démarche de terrain. Au-delà de la connaissance que l'on acquiert sur telle ou telle espèce, l'objectif, c'est de pouvoir mieux les préserver, ces espèces-là, et puis de faire en sorte que la population du territoire, les différents acteurs qui travaillent ou qui sont intéressés par les différents milieux naturels, puissent s'approprier ce patrimoine nature qui est très riche chez nous.
Je crois quand même que c'est important, c'est le fait que ça soit pas l'inventaire par lui-même qui est intéressant. C'est vrai que c'est l'inventaire qui est intéressant pour la culture scientifique du parc, la connaissance scientifique et tout ce qu'on va pouvoir apporter, nous, au bureau d'études, aux élus avec lesquels on va travailler, aux différentes sources de public à qui on va pouvoir apporter cette information scientifique et relevée dans des conditions d'observation scientifique en appliquant une méthodologie, un protocole. Mais ce qui est le plus important dans ces projets chantiers nature, c'est aussi l'appropriation des différents publics de la nature ordinaire, banale, mais aussi de la nature extraordinaire qui s'exprime sur le territoire du parc.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment réagissent les gens ? Est-ce que vous avez eu des surprises dans les réactions ? Est-ce qu'en général, ils ressortent contents d'eux ? Ils ont l'impression d'avoir servi à quelque chose ? Ils apprennent des choses, j'imagine, à chaque fois qu'il y a un chantier ? C'est une autre façon de voir sa nature, non ?
C'est sûr que c'est notre manière d'appréhender son territoire quotidien. Si on simplifie, les habitants du territoire, pour beaucoup d'entre eux, soit travaillent sur le territoire, soit travaillent à l'extérieur, donc... Le territoire, il est soit un lieu d'hébergement, de vie, soit un lieu de travail. Et de venir en chantier, c'est venir travailler pour la collectivité. Donc c'est aussi désaxer le regard des habitants du territoire envers leur territoire. Et c'est aussi une manière intelligente de travailler sur son territoire, de se l'approprier, plutôt que d'être dans le discours habituel « personne ne fait rien pour préserver » la nature du village, les espèces qui peuvent y vivre, ou prendre en compte l'ensemble des patrimoines. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite les habitants, qu'ils soient jeunes, étudiants sur le territoire ou autres, à venir travailler, s'inscrire dans une démarche de mise en chantier. Du coup, le regard change un peu puisqu'on les habitants se rendent compte qu'ils peuvent être acteurs de leur territoire, que c'est pas seuls qui vont faire ça, mais en travaillant de manière coordonnée avec les élus de la commune, ce qui peut aussi être bénéfique par rapport au regard du travail envers les élus de la commune, et puis avec des techniciens spécialistes dans leur domaine, qui peuvent être des techniciens parc ou des techniciens de structures avec lesquelles on travaille en partenariat.
Donc en fait, si je résume, en fait, il n'y a pas plus concret. Et en plus, on pourrait reprendre très bien le slogan à une époque de la sécurité routière qui était « si chacun fait un peu, c'est la vie qui gagne », là aussi.
C'est exactement la démarche. L'idée, c'est par l'action, on va réussir à inverser la tendance de baisse de la biodiversité sur le territoire. L'objectif, c'est vraiment de mettre les gens en action et ensuite de voir quels sont les résultats concrets par soit notre observation scientifique, soit la mise en chantier des habitants vers une observation scientifique de leur territoire qui permettrait à l'avenir de mieux appréhender ces questions-là et de voir concrètement ce qu'on a réussi à obtenir en menant des chantiers d'année en année sur des territoires communaux.
Nelly, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience au niveau des chantiers nature, puisque là on a parlé du Gobe-Mouche à Collier. Donc c'était situé où, Johan ?
En forêt de la Reine.
Voilà, forêt de la Reine, qui est pas très loin de Nancy en fait. Et Nelly, toi, tu es plutôt sur la partie est du territoire du parc, c'est-à-dire en tout ce qui est vallée de la Seille, Sarrebourg, Marsal, ce secteur-là.
Ouais, voilà. Et on a fait un chantier de restauration d'une mare salée, puisque la vallée de la Seille a la particularité d'abriter des milieux assez particuliers pour une zone en milieu continental, c'est-à-dire on y retrouve des prés salés et des mares salées.
C'est-à-dire qu'il y a du sel dans la terre, c'est ça ?
Voilà, en gros, on a une couche de sel qui est située à une cinquantaine de mètres en dessous du sol. L'eau remonte et l'eau remonte salée. Et on se retrouve avec des mares salées sur toute la vallée de la Seille, enfin sur une partie de la vallée de la Seille, avec des espèces floristiques qui poussent et qui sont typiques des milieux salés, comme la salicorne qu'on retrouve en général
en bord de mer
sur la façade atlantique. Voilà.
D'accord, oui, c'est assez, assez sympa, assez surprenant d'ailleurs quand on la voit fleurir, parce qu'on a des fleurs un peu bordeaux, rouge foncé, et on n'a pas l'habitude de voir cette plante-là en Lorraine, alors que bon, c'est vrai qu'il y avait la mer il y a encore quelques millions d'années.
Ouais, 220 millions d'années à peu près. Ça fait un petit bout de temps. Et l'idée en fait de ces chantiers, c'est de faire en sorte que ces milieux qui sont, on va dire, pas productifs, puisque ce ne sont pas des milieux agricoles, ce ne sont pas des milieux forestiers, donc ce sont des milieux qui ne sont pas entretenus, en fait, d'éviter que ces milieux se referment et de perdre, en fait, toute cette flore atypique et la faune atypique associée.
Parce que le risque, c'est quoi ? C'est qu'ils poussent des roseaux dans les mares, c'est ça ?
Voilà, et le roseau, bon, quand il s'y trouve bien, il pousse bien, et il pousse bien aux dépens des autres espèces floristiques qui sont plus typiques des mares salées. On va citer la salicorne, le troscar maritime, le samol de Valérance, ce genre de
choses. Mais moi, je suis un peu surprise parce que je trouve que les roseaux, c'est quand même beau. Et je pensais pas que c'était une plante néfaste pour le reste des espèces.
On va pas dire néfaste, on va juste dire qu'en trop grand nombre, quand elle envahit toute une mare, c'est monotone, quoi. La mare, il n'y a que du roseau qui pousse, et donc il n'y a que certaines espèces qui vont apprécier le roseau qui vont être là, comme la rousserolle. On va perdre certaines espèces, comme le sonneur à ventre jaune.
Alors, la rousserolle, c'est quoi ?
C'est un oiseau, petit oiseau.
D'accord. Alors que le sonneur à ventre jaune, c'est un crapaud.
Un beau crapaud.
Crapaud noir et jaune, c'est ça ?
Voilà, tout noir et jaune, tout beau.
Bon, d'où l'importance de sauvegarder ces mares salées. Voilà. Donc, quand tu parlais d'un chantier pour enlever les roseaux, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que c'est le prochain chantier qui va être fait par le parc ?
Pas forcément par le parc, mais en tout cas, dans la zone est, on met en place ce chantier depuis déjà 2 ans. Et en fait, c'est un chantier participatif. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite les habitants de la commune à venir participer à ce chantier, à leur expliquer un petit peu l'intérêt de cette mare au niveau faunistique, floristique, en tant qu'habitat. Et en fait, on fait ce chantier, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, avec une pelle, des pioches, des serpents.
Ça doit être une sacrée ambiance, n'empêche.
Il fait froid, surtout.
Alors, il fait froid, vous êtes tous avec des pelles et des pioches, mais ça fonctionne bien et c'est utile.
Ça fonctionne, c'est utile. Après, appel aux bénévoles, hein, on n'est jamais assez nombreux pour faire ce genre de chantier.
Sous réserve qu'il y ait assez de pelles.
Ah, mais il y aura ce qu'il faut. S'il y a des bénévoles, il y aura toujours des outils.
Alors, il a lieu quand le prochain ?
Printemps 2014 et automne 2014.
Bah, rendez-vous est pris, vous trouvez toutes les infos sur le site internet du parc. Nicolas, je crois qu'il y a quelques jours, il y avait eu une réunion pour briefer des bénévoles qui semblaient intéressés pour protéger les amphibiens. Comment ça s'est passé? Quel était le but?
Alors c'est une soirée, effectivement, où on a invité les habitants des communes de Bouc, qui se situent en Meurthe-et-Moselle, et également de Géville, qui se situe en Meuse. On est à la frontière entre les deux départements, à proximité de la forêt de la Reine. L'objectif, c'était de convier les habitants pour leur poser la question, est-ce qu'on peut, oui ou non, remettre en œuvre un système de protection des amphibiens qui migrent sur le secteur et qui, malheureusement, au cours de leur migration, se font écraser par les véhicules qui circulent sur une route départementale. Donc on avait une douzaine de personnes qui sont venues à cette réunion. Et ça a plutôt pas mal marché, donc bon, effectivement les gens ne se connaissaient pas forcément, donc au début il y a une appréhension à parler devant tout le monde, à se dévoiler, à dire si oui ou non on est en capacité de venir aider les voisins, aider les habitants des communes voisines à mettre en œuvre cette opération. Et nous, notre travail, ça a été de rassurer les habitants de notre soutien, du fait qu'on allait pouvoir les aider et techniquement, et sur la partie scientifique, puisque là, il s'agit de prélever des amphibiens et de les aider à traverser la route, donc éventuellement de les déterminer. Et une fois qu'on a eu renseigné les habitants sur ces deux questions, la question technique et la question scientifique, la parole s'est un peu déliée, et on peut estimer maintenant une douzaine d'habitants de ces deux villages, au moins, qui seront volontaires, et qui sont volontaires pour mettre en œuvre le système de protection des amphibiens dès l'année prochaine, donc dès 2014.
Et le système de protection, il consiste en quoi? C'est faire traverser les crapauds, les ramasser dans un seau et les faire passer la route, ou bien il y a autre chose?
Ah, il s'agit exactement de ça, c'est mettre en place un système qui barre la route de migration des amphibiens pour pas qu'ils traversent la route départementale. Donc c'est un système de bâches avec des seaux espacés régulièrement. Et les amphibiens qui souhaitent traverser la route vont buter contre cette bâche. Ensuite, ils longent la bâche, ils tombent dans un seau. Et le lendemain matin, il y a des joyeux récolteurs qui viennent les prélever dans les seaux et qui les aident à traverser la route afin d'éviter qu'ils se fassent écraser.
D'accord. Alors, c'est des crapauds, mais c'est pas seulement ça. Hein.
Non, sur ce site-là, il y a des crapauds, des grenouilles rousses également et les quatre tritons qui sont présents sur le territoire du parc. Et également la salamande tachetée, donc on a un cortège d'espèces d'amphibiens qui est assez important et très très intéressant.
Vous écoutez Fadjet, jusque 13h30, c'est la Lorraine vue du parc, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine.
Johan, je crois que tu avais une action concernant le butor qui a lieu bientôt.
On a un autre chantier qui est programmé pour le printemps 2014. On va s'intéresser à une autre espèce qui vit cette fois dans les étangs et qui est très emblématique des étangs de pisciculture qui jonchent un peu notre territoire. Et cette espèce s'appelle le butor étoilé. C'est un petit héron trapu qui vit dans les roselières des étangs.
Et le but de cette action, c'est quoi? C'est de le protéger, de le recenser?
Dans un premier temps, le but de cette action, c'est de recenser ces oiseaux qui ont des mœurs particulièrement discrètes, puisqu'on ne peut les contacter qu'au moment de la reproduction, où le mâle, afin d'attirer des femelles, pousse un cri très particulier, hein, qui ressemble à un bruit de taureau.
En quoi ça consiste le chantier pour protéger le butor étoilé?
Eh bien, en fait, on va organiser donc au printemps deux soirées de recensement, au cours desquels il nous faudra beaucoup de monde, hein, beaucoup de bénévoles pour pouvoir le même soir prospecter plusieurs étangs du parc naturel régional afin de pouvoir comptabiliser le nombre de mâles qui sont présents sur ces étangs et éviter également les doubles comptages parce que certains mâles se déplacent d'un étang à l'autre. Et lorsque le nombre d'observateurs est limité, il peut y avoir pas mal de difficultés et d'erreurs dans les recensements.
Oui, parce que l'intérêt de faire ça la même soirée, c'est qu'au moins on est sûr qu'il est là et pas à un autre endroit. Alors que si on fait ça sur deux ou trois soirs, on peut faire deux ou trois étangs différents, mais sans savoir si celui qu'on a entendu chanter à tel étang, c'était le même qu'on avait entendu chanter la veille, à un autre étang.
Exactement.
Le but, c'est de le compter, c'est de repérer. C'est comme tu disais tout à l'heure par rapport au gobe-mouche à collier, de le recenser et de comprendre son environnement, sa vie sur le parc de Lorraine.
Alors, il y a plusieurs objectifs. On a évidemment un rôle de connaissance, puisque c'est une espèce très discrète. On a aussi un rôle de découverte, finalement, de toute une biodiversité qui occupe les étangs à un moment lui aussi particulier, qui est la tombée de la nuit. Et donc, en gros, c'est de faire vivre un bon moment de nature au bord d'un étang, parce qu'on pense aussi que l'appropriation de la nature, elle passe par vivre des belles émotions et pas seulement par la réalisation de démarches scientifiques.
Oui, c'est vrai qu'on peut être aussi sensible à la protection d'un endroit si on a vécu des moments forts là, et puis même quand on est sensible à la beauté du lieu.
Ce qui est intéressant sur le chantier Butor étoilé, c'est qu'on va aussi mixer les publics. Alors, pour nous, on met en œuvre notre politique parc quand on fait ça, puisqu'on va travailler avec des publics scolaires qui sont des élèves du lycée agricole de Pixérécourt, qui est un partenaire dans le cadre des chantiers nature, donc des élèves qui sont en deuxième année de BTS. On va travailler avec des habitants bénévoles. On a fait un appel aux bénévoles des associations locales qui sont situées sur différents partie du territoire parc, et on va travailler également avec les forces vives du territoire, habitants. Donc on va faire une action de communication qui a déjà commencé. Donc c'est les étudiants de BTS Gestion et Protection de la Nature qui sont à pied d'œuvre là. Et actuellement, ils réalisent une enquête sur les secteurs sur lesquels se dérouleront l'inventaire à partir de mars prochain. Donc les étudiants ont pour mission d'aller enquêter les élus, les représentants des associations, pour savoir ce qu'ils connaissent du Butor, est-ce qu'ils en ont déjà entendu parler, est-ce que pour eux la protection ou l'inventaire de cette espèce c'est quelque chose d'important, et d'inviter l'ensemble des personnes qui vont être enquêtées, auditées en quelque sorte, à venir participer à ces deux soirées d'enquête. L'idée, par la suite, c'est de commencer à constituer des groupes d'habitants bénévoles sur l'ensemble du territoire parc ou sur des parties du territoire parc pour pouvoir les mobiliser par la suite sur les années de la future charte pour qu'ils puissent mettre en œuvre des chantiers dans leur diversité, que ce soit des chantiers d'inventaire ou des chantiers d'entretien de milieux naturels.
Pour rappel, la charte, c'est ce qui définit les grandes lignes de programme du parc, d'un parc régional. C'est valable 12 ans et c'est bientôt renouvelé, ça sera signé en début 2015. Quand tu disais mobiliser ces gens-là, en fait, c'est construire un vrai réseau.
On est à la construction du réseau et on est à l'utilisation aussi des réseaux existants. Sur le parc, il y a déjà des réseaux qui sont animés, qui existent soit formellement ou de manière plus informelle, mais il y a des réseaux qu'on a déjà l'habitude de mobiliser. Il y a un réseau qui fait de l'éducation au territoire, il y a des réseaux naturalistes. Il y a le réseau des giteurs, il y a le réseau des associations. Sont tous des partenaires. Ils utilisent le territoire soit pour y travailler, soit pour sa promotion. Donc le fait de faire sa promotion leur permet à eux de vivre.
D'accord.
L'idée, c'est de faire en sorte que les réseaux aussi se rencontrent, qu'on ait de plus en plus des croisements entre les associations qui font purement de l'éducation, des associations ou des porteurs privés qui font purement de la culture ou de l'accueil en gîte, et qu'on puisse faire en sorte que les naturalistes parlent aux éducateurs et travaillent ensemble
faire
sur des
le
projets.
Lien. Faire le lien entre les réseaux, impulser une dynamique, et puis qui existe déjà, mais lui donner encore un petit peu plus d'importance, et faire en sorte que du coup tout soit plus efficace, avec les mêmes moyens.
Avec les mêmes moyens, travailler plus efficacement et travailler en réseau avec un X au bout. Donc on travaille bien sur les réseaux qui sont multiples et à faire se rencontrer les réseaux. Et pour nous, plutôt que d'essayer de se faire rencontrer les réseaux autour d'une table, au cours de réunions qui sont parfois longues et qui mènent pas forcément à des décisions immédiates, on pense que les amener sur des chantiers, quelle que soit la diversité des chantiers, ça peut permettre la rencontre. Comme disait Johan tout à l'heure, créer l'émotion, créer une appropriation du lien social et faire en sorte que autour de ces actions chantiers puissent naître d'autres actions également.
D'accord. Alors, juste une petite chose. Pour les prochains chantiers, les gens qui nous ont écoutés, nos auditeurs, vers quels médias ils peuvent se tourner pour avoir connaissance de ces dates de chantier ?
Ils peuvent se tourner vers le site internet du parc.
www.pnr-lorraine.com.
On a également une page Facebook sur laquelle on diffusera les informations. Et s'il y a des gens qui sont particulièrement intéressés et qui veulent être moteurs dans ce type d'action, qui ont des chantiers à proposer, et qui veulent être force de proposition, ils peuvent aussi nous contacter directement au parc, et on les renseignera sur ce sujet.
D'accord. Donc, n'hésitez pas, surtout, si ça vous dit de participer concrètement à l'amélioration de la nature, des milieux naturels qui sont sur les territoires du parc de Lorraine, n'hésitez pas à aller sur le site internet, à nous téléphoner, et puis, à très bientôt, et bon mois de décembre.
C'était La Lorraine vue du parc, présentée par Clémentine Mervelet, en partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site www.fadjet.net. Cette émission sera rediffusée dimanche à 13h30. Bon après-midi.